RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Philippe Herbette, qui est président de Fitness Park Group. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1972 à Amiens et vous avez été champion de France de fitness en 1993. Alors, le sport, ça a toujours guidé votre vie ?
Oui, en tout cas, c'était il y a 30 ans, cet événement. Hein.
Peut-être.
Mais j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai arrêté le bodybuilding, mais j'ai pas arrêté de m'entraîner, de faire du sport, de l'exercice physique, on va dire.
Et ça, c'est quoi ? C'est vos parents ? Qu'est-ce qui vous a inculqué cette philosophie du sport, cet art de vivre, si je puis dire ? Dites, un ancien politique.
Arnold Schwarzenegger.
C'est lui qui t'a motivé, c'est vrai, quand vous étiez petit ?
Non, mais c'était le modèle de tous les jeunes culturistes à l'époque. J'ai fait du sport tôt, j'ai fait de l'athlétisme, et après, je me suis retrouvé un peu par hasard, c'est une longue histoire, dans une salle de fitness, et ça m'a plu. Et,
vous dites pourquoi pas ?
J'ai piqué au jeu, et j'ai... J'en ai fait beaucoup, un peu trop peut-être.
Alors aujourd'hui, donc, vous dirigez une magnifique ETI hein, qui a réalisé avant Covid, en tout cas, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros pour 1500 collaborateurs. Comment vous avez construit ce groupe ? Vous avez acheté une première salle, une deuxième, une troisième ? Vous avez carrément acheté une boîte, vous l'avez développée ? Comment ça s'est passé ? L'historique, la genèse de ce groupe Fitness Park ?
Alors, donc à 21 ans, j'ai ouvert ma première salle de sport. Justement, je venais d'être champion de France et je voulais arrêter de faire des compétitions parce qu'après, c'est trop, c'est pas très sain pour la santé, dans ce sport-là en tout cas. Donc, je voulais rester dans cet univers. Donc, j'ai ouvert ma première salle de sport. Et puis, l'année d'après, j'en ai ouvert une deuxième. Et puis, finalement, chaque année, j'en ouvrais une de plus. Et j'ai commencé comme ça à construire mon groupe. Et donc ça a pris de l'ampleur, ça grossissait au fur et à mesure. Et il y a 7 ans, j'ai acheté une activité de franchiseur. C'était un groupe qui s'appelait Moving. Comme ça, j'ai embarqué avec moi, en plus de l'activité de gestion des salles de sport, le métier de franchiseur, donc pour ouvrir des salles de sport, bien sûr. Et donc maintenant, le groupe fait ces deux activités.
D'accord. Vous avez plusieurs marques ?
C'est que Fitness Park. Il y a 7 ans, il y avait du Fitness Park et du Moving, mais là, on est vraiment focus que sur Fitness Park. Il n'y a plus que ça.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes présent en France, mais également, Philippe, à l'international.
Oui, exactement. Il y a 2-3 ans, on a commencé à l'international, le Portugal, l'Espagne, et ça se passe très bien. On a un bon succès. La marque s'exporte bien et on va faire prochainement d'autres pays.
D'autres acquisitions aussi.
On a commencé le Maroc, pardon, aussi.
Oui.
Et on va faire d'autres pays.
Et en Europe, c'est plutôt l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud qui aime le fitness en général ? Je parle des clients lambda.
Là où c'est le plus développé, où la maturité de notre activité est forte, c'est dans l'Europe du Nord.
L'Europe du Nord,
voilà,
d'accord.
L'Angleterre, l'Allemagne, mais alors les pays du Nord, Norvège, Danemark, etc., c'est là où il y a les plus forts taux de pénétration, c'est là où les gens s'entraînent le plus, sûrement pour se réchauffer, j'imagine.
Et le moment où vous avez le pic des adhésions, c'est quoi ? C'est quand on rentre en septembre en disant bonne résolution, ou alors c'est au mois de mai-juin quand on se dit waouh, j'ai quand même beaucoup de bedaine.
Le pic, c'est septembre. Quand j'avais travaillé en Belgique, c'était janvier le pic. En France, c'est septembre. Je crois que c'est la même chose en Espagne. Après, il y a d'autres pics plus petits, donc notamment au printemps, pour préparer le summer body. Mais après, tout de même, moi qui connais le fitness depuis longtemps, il y a de moins en moins de pics. C'est assez linéaire, c'est-à-dire que les pics de septembre sont moins forts, etc. Mais c'est finalement toute l'année que les
gens s'inscrivent. Toute l'année, quoi. Fanny, vous êtes cliente alors, de Fitness Park ou d'un autre club
J'ai pas mal pratiqué le fitness. Maintenant, comme je travaille beaucoup, je fais venir mes coachs au bureau.
Ah ben c'est bien
mais,
ça.
Mais j'en fais profiter les collaborateurs aussi.
C'est donc, bien Philippe ça aussi.
Chez Généo, c'est Pilates et yoga.
Tout ce qui permet de faire du exercice physique, c'est bien.
Absolument.
Ça fait beaucoup.
Mais la meilleure expérience, ça reste dans les salles de sport quand même, les salles de fitness.
Et notamment une en particulier, je crois.
Alors j'ai envie de vous demander justement, voilà, qui sont vos clients en fait ? Quand on pense aux salles de fitness, on pense d'abord aux gens en milieu urbain qui n'ont pas la possibilité de faire du sport de plein air. Est-ce qu'il y a un public type ? Est-ce qu'il y a une classe d'âge ? Qui vient vous voir en fait ?
L'attractivité, elle est davantage chez les jeunes. La moyenne d'âge chez Fitness Park, c'est 25 ans.
De vos clients.
De mes clients, ouais.
25 ans.
Et quand on fait les sondages, c'est chez les 16-18 ans, il y a le plus d'appétit pour faire du fitness. Donc c'est bien parce que vous voyez, ça montre que dans les 10-20 ans qui viennent, enfin ces générations continueront à faire du fitness et on va se rattraper, on va rattraper le retard parce que quand même la France est un des pays les plus en retard en termes de maturité de marché de tous les pays avancés, on va dire. Donc comme on voit que les jeunes générations veulent faire beaucoup beaucoup de fitness, on suppose qu'on va se réaligner sur la mondialisation, si je puis dire, du fitness.
Ouais, donc marché à potentiel pour le marché français, quoi. Fanny ?
Et puis j'imagine que ça, chaque salle a ses particularités, a son public, chaque manager de salle est là pour la remplir et servir les clients. Donc vous, aujourd'hui, finalement, comment vous êtes un manager de manager, hein, comment vous pilotez finalement ces différents sites ?
Effectivement, il y a des managers dans les clubs pour l'équipe en place.
Votre rôle à vous en tant que leader du groupe, en fait.
Moi, aujourd'hui, ma plus grande qualité, c'est de recruter, de faire des bons recrutements. Parce que c'est vraiment les directeurs que j'ai embauchés qui font tourner la boîte aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de formation particulière, je n'ai pas fait d'études particulières pour
gérer. Vous êtes formé quand même à la gestion ?
Oui, en cours de route. Ouais, j'ai fait des petites formations pour récupérer un peu de niveau en termes de finances. Parce qu'à un moment donné, vous savez ce que c'est, il faut aller chercher beaucoup d'argent. Et en tout cas, il faut travailler avec des fonds d'investissement. Donc effectivement, pour m'aligner un peu sur le langage qui va bien, j'ai repris quelques études en cours de route. Mais bon, c'est très autodidacte quand même. Hein, c'est vraiment empirique, hein, tout ce que j'ai appris.
Et la question de Fanny, justement, s'entourer, c'est juste fondamental. Et vous l'avez compris très, très tôt.
Ouais, aujourd'hui, moi, là où j'ai une vraie plus-value, c'est quand je dois recruter des gens importants à des postes importants. Là, je m'en mêle quand c'est ça, quand c'est ce niveau-là. Et il ne faut pas que je me plante, en fait, parce que à chaque fois, on perd du temps, quoi. Et le temps, c'est de l'argent.
Et vous êtes une petite structure, en plus. Hein, la pyramide c'est quand même assez étroit, quand même s'il y a beaucoup de collaborateurs.
Oui, bah, ils sont surtout dans les salles de sport. On est une centaine au siège social. Et après, les 1500 autres sont dans les salles de sport. Ouais.
Fanny ?
Le choix de l'Europe, en fait, vous développez hors de France, c'est parce que vous aviez le sentiment que finalement le terrain était bien occupé en France et il fallait aller voir d'autres pays, ou bien c'est parce que vous avez eu des opportunités? C'est quoi la stratégie?
Je pense que, vous savez, pour la motivation de l'équipe, à un moment donné, il faut toujours avoir des visions ambitieuses. Donc l'international, ça, c'est naturel. À un moment donné, on veut se développer, quoi. Surtout que la plupart de nos concurrents sont des entreprises internationales. Donc ça devenait évident de nous aussi faire de l'international. Et ça s'est fait simplement parce que c'est un de mes franchisés qui a voulu devenir master franchisé en Espagne. Donc on l'a accompagné là-bas, on l'accompagne au quotidien. Le Portugal, c'est pareil d'ailleurs, c'est un Français
qui s'est exporté.
Voilà, un artiste français qui s'est exporté là-bas. Et puis les autres pays, là par contre sur les autres pays, je pense qu'on va plutôt avoir affaire à des acteurs locaux en fait, du cru, si je puis dire. Parce que voilà, on est en train vraiment du coup de s'internationaliser, donc on s'organise dans ce sens.
Le fait de s'internationaliser, ça vous inspire pour faire évoluer la façon dont vous faites les choses en France?
Oui, en tout cas c'est intéressant parce que surtout quand on commence à travailler avec des fonds d'investissement, il faut toujours faire de la croissance, il faut toujours être de plus en plus gros. Alors on ouvrait une trentaine de clubs par an.
Fanny qui sourit.
Maintenant,
vous avez des moyens grâce à ça.
Maintenant, on va en ouvrir le double grâce à notamment l'Espagne et le Portugal. Et puis, mes gros concurrents, ils en ouvrent encore trois fois plus. Donc, il faut à chaque fois qu'on essaye de se mettre dans ce sillage. Et du coup, il faut qu'on grossisse, quoi. Il faut que nous aussi, on ait des croissances à deux chiffres.
Alors, Ludovic, vous avez fréquenté peut-être Fitness Park, parce que là, vous avez fait quand même beaucoup de sport. Là, ça s'est bien gonflé, ça s'est bien musclé, tout ça.
Alors, je suis ravi déjà de connaître Philippe, puisque effectivement, Philippe est un de nos clients qu'on a accompagné juste avant la période Covid. Donc, ça a été un moment particulier, compliqué. Effectivement, on a eu l'occasion d'échanger avec les équipes. Une petite anecdote avant de rentrer en phase de questions. J'ai eu l'occasion de côtoyer vos équipes sur un comité de pilotage. Malheureusement, vous étiez passé par là le matin. Donc, on m'a dit, on a une petite session avec Philippe. Et donc, de grosses courbatures avant de démarrer le copine. Donc, ça m'a question sur la culture managériale et le sens du dépassement. quel type de relation vous entretenez dans le sens du dépassement avec votre premier cercle de managers et puis de façon plus large avec l'ensemble de vos directeurs de site?
Ben voilà, c'est une relation sportive. Le COMEX, il démarre à 9h.
C'est très sympa.
À 7h30, on est dans la salle, puisqu'on est à la Défense. On est une salle de sport à la Défense. Donc, un fitness park à la Défense. Donc, je les entraîne là-bas, et après, à 9h,
c'est vous le coach?
On est au COMEX. Ah oui, c'est moi. Oui, parce qu'ils n'ont pas 37 ans d'expérience comme moi d'entraînement. Donc,
c'est mais elle était vraiment en souffrance. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
Bon, d'accord. Elle était heureuse,
non,
quand même.
Tout oui. Monde, non, mais ça fait plaisir à tout le monde, en fait. Hein. Mais vous voyez, c'est tôt le matin, comme ça on n'empiète pas sur le travail. Non, après, je suis vraiment en direct avec une petite dizaine de directeurs. Après, je les laisse faire parce que ça me dépasse un peu tout ça. Moi, je n'ai pas été formé pour diriger une entreprise de 1500 salariés, mais gérer une petite équipe d'une dizaine de personnes, je sais le faire. Et donc, voilà, c'est les postes clés. Par exemple, il y a 7 ans, quand j'ai récupéré le groupe Moving, donc le franchiseur, j'ai apporté beaucoup de mon savoir-faire pour créer un produit vraiment attractif parce que c'était pas tout à fait ça, on va dire. Maintenant, c'est eux qui m'apprennent des choses. Donc, je les écoute, en fait. Je suis plus dans l'écoute que dans la directive. J'ai l'impression que c'est plus eux, maintenant, qui m'apprennent des choses. Et puis, c'est devenu un tel phénomène de société, et donc surtout chez les jeunes, qu'on a plein d'informations sur les réseaux.
Belle école d'humilité également et de remise en question.
Ouais, en termes de croissance, on a parlé un petit peu de momentum. Je voulais revenir sur ce sujet-là. À quel moment vous décidez justement d'intégrer au capital des fonds d'investissement? Quel objectif? Et puis surtout, la question des entrepreneurs, c'est qu'est-ce que ça vous apporte?
Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller chercher beaucoup d'argent pour faire beaucoup de développement?
Vous avez la question comme ça, mais peut-être que...
Non, mais moi, vous savez, déjà, je crois qu'on est... on est entrepreneur ou on le devient, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens ambitieux, c'est une nature. Donc, moi, j'ai toujours été ambitieux parce que déjà, quand j'ai voulu faire du sport tôt, adolescent, c'était pour être champion, en fait. Et après, quand j'ai voulu ouvrir mon entreprise, c'était pour avoir une entreprise qui grossit de plus en plus. Donc, ça, je l'ai en moi, en fait. Et donc, ça peut pas s'arrêter. Et même aujourd'hui, je m'interroge sur quels seront les prochains fonds d'investissement encore plus gros pour faire encore plus de développement. Et je prends.
J'ai quelques idées. Hein.
Et je prends. voilà, très bien. Je prends exemple sur... parce qu'on n'est pas les plus gros. Hein. Il y a 3 géants en Europe qui ont...
Ils sont néerlandais, dans quel pays?
Oui, Basic Fit, ils sont néerlandais. Ils ont plus de 1000 clubs. Mmh. Il y a un géant américain qui a 2600 clubs. Il couvre 300 clubs par an.
Vous allez les bouffer tous, non?
Je ne sais pas si je vais les bouffer, mais c'est intéressant de voir que même eux qui sont arrivés, on aurait pu croire qu'ils sont arrivés à saturation à un moment donné. Ça continue, ils ouvrent de plus en plus de clubs. Donc ça donne beaucoup d'espoir, je dirais, même pas pour les années à venir, mais pour les décennies à venir. Je pense que dans 50 ans, même dans 100 ans, les gens auront toujours besoin de faire d'exercice physique, quel que soit le niveau de modernité.
Absolument.
Donc c'est intéressant de se dire, allons-y, ouvrons de plus en plus de clubs.
Oui, vous travaillez, vous l'avez dit, en réseau. Hein. Alors vous avez des franchises, vous êtes en intégré. De quelle façon vous arrivez à mettre en place des synergies entre les différents centres? Parce que finalement, le dénominateur commun, ce sont des achats communs, ce sont des structures communes, vraisemblablement des formations communes. De la communication, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les clés du succès sur ces synergies?
Les clés du succès, justement, c'est d'avoir plein de cerveaux d'entrepreneurs qui réfléchissent à faire évoluer le modèle. Je pense qu'on a le meilleur modèle, je crois, aujourd'hui, même si on n'est pas les plus gros. Parce que ma centaine de franchisés qui développent, c'est des entrepreneurs, hein, chacun d'entre eux. Vous voyez, on a passé la semaine dernière en Italie, chez notre principal fournisseur Technogym, la semaine, c'est la convention annuelle. C'est formidable parce que là, on apprend encore une fois de eux des tas de choses. Parce qu'on essaye tout le temps des centaines de nouvelles procédures, mais aussi des nouveaux outils, et puis des nouvelles techniques, des nouvelles activités. Et grâce à eux, on a un feedback formidable sur tous ces tests. Donc ça nous permet à chaque fois d'embarquer avec nous. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment notre principale force face à des gros, d'autres plus gros que nous qui ne font pas de franchise. Donc ils n'ont pas autant de cerveau d'entrepreneurs, si je puis dire, oui, dans leurs équipes. Donc,
faut les gérer aussi, les entrepreneurs. Hein. Faut les gérer, les franchisés.
Il faut surtout leur apporter des solutions pour qu'ils réussissent tous, parce qu'il faut que tous réussissent.
C'est pareil, 7h du mat' à la Défense, tous les franchisés, non?
J'aimerais bien, ouais.
Dites-nous, Philippe, la marque est forte, hein, Vitesse Park, c'est un élément très fort. On imagine des produits dérivés, je ne sais pas, des lunettes, du matériel de fitness, des vélos, des trucs.
Oui, Oui, c'est vrai. Nous, on y pense beaucoup. On est en train de... Parce qu'avec 250 clubs ouverts aujourd'hui, on est en train de se dire on a un beau réseau de distribution. Il faut qu'on commence à l'exploiter. On l'a très peu exploité, effectivement. Donc le textile, bon, déjà tout ce qui est complément alimentaire, c'est la chose la plus évidente. Le textile et après les appareils d'entraînement à domicile. Donc là, pour le coup, moi, je ne sais pas comment faire. Je laisse faire mes équipes et on travaille dessus pour qu'on puisse utiliser notre réseau. Mmh. Parce que nos clients, ils nous payent 30 euros par mois, mais en réalité, le budget, je dirais, remis en forme de nos clients est bien supérieur.
Sur les chaussures, tout ça.
Exactement. Ouais. Donc, comme on est un peu leur référent conseil sport, fitness, on va essayer d'aller plus loin.
Et c'est compatible de bien muscler en continuant à boire un peu de vin par jour ou pas ?
Un peu, oui, bien sûr, un peu. C'est très bien, parce qu'un peu, ça veut dire
mais
plaisir.
C'est d'abord l'alimentation, non, j'ai l'impression ?
Oui, l'alimentation, très important, il ne faut plus manger de sucre, plus de féculents, tout ce que vous voulez, mais pas de sucre ni de féculents, et là, vous serez en parfaite santé.
Très bien, et alors côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation du waterzooi, c'est ça, de poisson ?
Ah, c'est vrai, j'avais répondu à cette question.
C'est pour les gens. Non,
parce qu'on m'a demandé...
mais comment vous le préparez ? Vous prenez un poisson, vous prenez un waterzooi ?
Alors, je fais un waterzooi au poisson et pas au poulet. Normalement, traditionnellement, ouais. Ça se fait
avec vous n'aimez pas trop la viande, mais pour ça, ça peut.
Le waterzooi, c'est bien, il n'y a pas de féculents, c'est que des légumes.
Oui.
Et une bonne sauce, et on met du poisson, du poulet dedans, et c'est très bon.
Bon, et votre plus beau joli voyage, c'était aux Seychelles. Vous remarquez, on est plutôt d'accord avec vous.
Ouais, les Seychelles, ouais. C'est un très beau voyage. Ouais.
Bon, ben super Philippe, en tout cas, bravo. Et puis rendez-vous dans 50 ans hein, pour voir la suite
oui,
un peu de le Fitness Park Senior, hyper senior. Merci également à vous, Fanny et Ludovic, fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise avec un nouvel invité.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.